Aborder ce qu'on appelle préhistoire, c'est se plonger au premier abord dans une abstraction d'où la vie est absente. Seuls les faits matériels peuvent être établis avec quelques robustesses scientifiques, qu'il s'agisse d'environnement, de génome ou de techniques fossiles. Sur l'organisation sociale des paléolithiques ou leur vision du monde, nous ne proposons que des hypothèses, puisque nous sommes heureusement très prudents. Elles sont sans doute très en deçà des réalités passées. Dans nos procédures rigoureuses pour dépasser le strictement factuel, toujours avec humilité et sobriété, je suis convaincue qu'il y a de grandes leçons éthiques à tirer en matière de respect des autres et de leurs pensées. Le préhistorien Jean-Michel Genest est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son dialogue magnifique avec Boris Valentin, intitulé « Si loin, si près » pour en finir avec la préhistoire. Mais pour commencer, eh bien, on va un peu danser avec Bob Marley.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Quand êtes-vous descendu pour la première fois dans une grotte, Jean-Michel Genest?
J'ai dû descendre dans des grottes assez jeunes, enfants, mais ma première visite, vraiment dans une grotte où je réalise que je suis dans une grotte, ça doit être en 1965 ou 66, je rentre pour la première fois dans la grotte de Lascaux. Je suis un visiteur exceptionnel avec des archéologues et là, c'est une sorte de basculement, une sorte de découverte que la préhistoire, c'est pas que fossile, que l'on peut effectivement confronter à des œuvres d'un passé lointain, réagir, interagir, envisager de partager et qu'on peut sortir de la seule objectivité. Par rapport au texte que vous citiez tout à l'heure, par rapport à cette nécessité d'être rigoureux, de se baser sur des faits objectifs, on est là envahi par l'émotion. On réagit comme à toute œuvre esthétique, artistique. Et là, il n'y a plus la notion de temps. Il n'y a plus, on ne sait plus où ça se situe dans le temps. Et c'est précisément là qu'il y a eu très tôt le besoin de travailler. C'est pour ça qu'il y a eu cette passion largement partagée pour les œuvres artistiques des grottes, mais pas que cela, pour l'art mobilier, pour tout ce qui vient des périodes très anciennes, ces manifestations de sens, de pensée, et surtout cette émotion esthétique qui est dans tous les objets.
Vous êtes devenu l'un des plus grands préhistoriens aujourd'hui dans le monde entier, mais cette passion s'est ancrée très jeune dans votre enfance et dans votre adolescence, parce que vos grands-parents habitaient déjà dans un paysage de grottes.
Oui, c'est exact. Mes grands-parents habitaient aux Aizis, à côté d'une grotte, et j'habite toujours à côté de la grotte de la Moutte, la première qui a été découverte par un préhistorien, Émile Rivière, en 1895. Mais j'ai toujours considéré que c'était vraiment le hasard, hein, quelque chose d'opportuniste. Je pense que ça m'a peut-être marqué, mais pas autant qu'on le pensait. C'est plus tard que je suis revenu à cela, peut-être à cette évidence de racine. Ça a dû faciliter. Mais comme je ne suis pas resté toute mon enfance dans cette région, comme j'en viens pas, que j'ai beaucoup bougé, je pense que j'ai redécouvert de plus loin ce qu'il y avait dans cette région. Et c'est pour ça, à ce moment-là, que je m'y suis plus accroché, investi, et que j'y suis toujours, d'ailleurs.
De près, de loin, ça peut caractériser votre méthode scientifique de l'approche de la préhistoire, Jean-Michel Jeunesse. Et d'ailleurs, ça a commencé là aussi très tôt dans votre existence, parce que vos parents voyageaient beaucoup, et vous voyagiez avec vos parents, donc vous êtes revenu en France, mais vous avez conservé dans votre métier de préhistorien cette passion pour les voyages et cette méthodologie d'aller voir dans tous les continents ce que ça veut dire la préhistoire. Pourquoi ?
Oui, disons que assez tôt en pratiquant la préhistoire, à partir des années 70, c'est-à-dire lorsqu'on passe une thèse, lorsqu'on se forme à la rigueur du discours, à ne pas se laisser emporter par l'imaginaire, mais à se baser sur les faits scientifiques, c'est là qu'on se rend compte au bout d'un moment que c'est bien, mais qu'il passe à travers maille une partie de l'information qu'on doit traiter d'une autre manière. Et au bout d'un certain temps, au bout de longues décennies, on se demande qu'est-ce que c'est cette manière. Et là, il faut rentrer à l'intérieur, s'immerger plus et certainement trouver un autre type de mode de communication, un autre type d'écriture, que simplement écrire des articles scientifiques. Donc je me suis retrouvé à l'étroit, vite, et j'ai effectivement eu besoin de regarder ailleurs et d'aller voir sur place dans des sociétés qui n'étaient pas plus archaïques que ça. Ce sont c'est des lointains, mais c'est pas des lointains dans le temps. Et finalement, que la préhistoire dans nos sociétés, et du point de vue académique, c'est avec ce préfixe « pré » qui est trop privatif pour aussi bien pour Boris Valentin que pour moi-même et d'autres, ce n'est pas seulement ces sociétés qui n'ont pas eu d'écriture, puisque la préhistoire c'est avant l'écriture, au contraire, parce qu'il y a 80% de peuples sur la planète aujourd'hui qui n'ont pas eu d'écriture. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à cela, parce qu'ils avaient, dans leur pratique, dans leur mode de vie, dans leur comportement, dans leur croyance, dans leur regard, qui n'était pas que matérialiste, où il y a du vivant, de l'esprit, dans l'arbre, dans le nuage, dans la pierre, dans l'objet, dans le silex. Et là, j'ai commencé à essayer, autant que faire se peut, de partager des points de vue, de manière à être plus inspiré. Et cela, je l'ai fait en faisant de l'archéologie avec eux, en travaillant avec eux.
Mais vous n'êtes pas seulement préhistorien, vous n'êtes pas seulement archéologue. Jean-Michel Genèse, vous êtes aussi anthropologue. Car quand vous nous restituez vos travaux à l'intérieur de sociétés traditionnelles comme par exemple en Papouasie ou en Australie, eh bien vous vous immergez pendant très longtemps dans les rites et dans les rituels des populations dans lesquelles vous allez travailler, vous vous faites accepter, vous n'ouvrez la terre que si vous y êtes autorisé, et vous allez vous enfoncer à l'intérieur de la terre et en extraire des objets que si vous avez été accepté dans ce geste de sortir de la terre quelque chose qui va être redonné à cette population, d'où tout cela venait.
Oui, j'ai toujours eu cette conscience à laquelle je me suis attaché à ne pas intervenir, à ne pas... J'ai l'habitude d'utiliser une expression, elle est triviale, ne pas aller faire son marché chez les autres. Je ne suis pas allé là où il fallait que j'aille pour développer tel ou tel domaine de la recherche que je conduisais, de la connaissance des modes de vie, des manières de travailler la matière, qui est mon intérêt, mon approche initiale. J'ai toujours voulu développer des œuvres que des collègues, notamment en Australie, ethnologues, m'ont appris à concevoir ainsi, c'est-à-dire à développer des œuvres en collaboration, c'est-à-dire travailler uniquement sur invitation et en associant à la recherche ceux chez qui, ou du moins sur le territoire desquels je travaillais, et les associer même au partage, aux avis, à la discussion. Et là, on apprend les termes aujourd'hui de tel langage, dans tel langage tribal, dans tel groupe, on désigne les 16 objets de telle manière, telle autre. Les mythes qui vont avec émergent, et là, à ce moment-là, cet univers de la science qui était froid devient brûlant, vivant, captivant. On est à l'intérieur. C'est une autre manière, mais elle est dangereuse aussi. On risque d'y perdre cette pureté scientifique, mais on gagne autre chose.
Vous êtes un grand scientifique, Jean-Michel Genest, et pourtant cette science de la préhistoire doit beaucoup au hasard, parce que la préhistoire n'a pas toujours existé, et elle doit beaucoup à l'inventivité de jeunes gamins qui un jour ont trouvé des entrées et puis se sont introduits dans les tréfonds d'une grotte, etc. On connaît l'histoire, elle est très romanesque, mais n'empêche que cette science, votre science que vous pratiquez, eh bien, elle repose sur du poétique. Je crois que vous ne l'oubliez pas dans votre pratique de préhistorien. Je vous propose d'écouter Henri Breuil, dit l'abbé Breuil, à propos de la découverte de la grotte de Rouffignac. C'est une archive INA de 1956. C'était au micro de Bertrand Poirot-Delpech.
Vous êtes donc, monsieur l'abbé, parmi les premiers invités des professeurs qui viennent de découvrir cette grotte de Dordogne. Quelle est, à votre avis, l'importance de cette découverte ?
L'étrangeté de cette caverne réside principalement dans le fait que le mammouth y domine complètement. Et il y a aussi une figure très rare dans nos cavernes, le rhinocéros à toison laineuse, rhinocéros ticorinus, lequel est représenté par 4 exemplaires très beaux, dont 3 se suivant sur une corniche.
À quand remontent, monsieur l'abbé, ces compositions ?
Ces compositions remontent naturellement à l'âge du renne, mais à une période où la perspective tordue est complètement abandonnée et où on respecte les conventions actuelles de la perspective.
C'est-à-dire environ alors 20 000 années avant notre ère.
Ou plus.
Alors nous venons d'entendre ce document d'archives de l'abbé Breuil. Est-ce que ce que dit à l'époque, en 1956, l'abbé Breuil, est-il confirmé aujourd'hui scientifiquement, Jean-Michel Genest ? Pas vraiment, je crois.
Mais je pense que ce n'est pas la question. Il y parle d'étrangeté et il est surpris. Et donc, il interprète avec les données qui sont disponibles à l'époque. Et il les énumère. Aujourd'hui, non pas qu'on ait pu forcément dater directement la grotte de Rouffignac, on sait qu'elle est plus récente. À l'époque, il n'y avait pas autant de mammouths, pas autant de rhinocéros, il était surpris. Mais on a été tout aussi surpris quand on a découvert la grotte Chauvet, et on a pu dire le même genre de vérité qui était une vérité de l'instant et que la recherche allait démontrer qu'elle était différente, un peu plus ancienne, etc. Vous voyez, on interprète tout avec ce que l'on a. Capitaliser ce que l'on a dans notre carnet d'adresses, et quelquefois ça suffit, quelquefois ça suffit pas. C'est pour ça qu'il faut aller regarder ailleurs.
Quand a commencé la préhistoire ?
Oh, la préhistoire a commencé, je dirais, lorsque, dans la perspective de l'évolution humaine, les premiers hominidés de la lignée humaine en Afrique, Australopithèque.
Hominidés, ça veut dire que c'est des êtres qui ne sont pas encore humains.
C'est des êtres, non, mais qui sont sur la lignée de l'évolution humaine. Lorsque, par exemple, les Australopithèques, il y a 3,5 millions, 4 millions d'années, produisent des objets culturels, inventent des comportements, des modes de vie qui vont interagir sur leur évolution. À partir de là, on est dans le propre de ce qui fait l'humain, l'expression symbolique qui interagit et qui va être quelque chose de tout à fait propre à l'espèce humaine, à l'animal humain.
L'animal humain, c'est celui qui produit du symbolique et peut faire de l'art.
L'humain est l'animal symbolique. Et tout le dispositif du cerveau humain, et après de l'interaction entre les capacités cognitives et l'esprit humain et son interaction avec la culture qui lui profite ou qui ne lui profite pas, mais qui interagit avec lui, à partir de là, on rentre vraiment dans la production de la lignée humaine et des types humains.
Mais à vous lire, Jean-Michel Jeunesse, on a vraiment l'impression que plus les hominidés s'approchent de l'humain, plus ils sont capables de reproduire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils imaginent, c'est-à-dire faire du symbolique, et que plus ça avance, plus ils deviennent humains. Donc ça nous pose des questions vertigineuses sur l'intersection et la nécessité entre le symbolique et le devenir humain. Le culturel et l'humain,
le culturel,
comme s'ils étaient indissociables.
Le culturel est l'essence de l'humain parce que la culture est essentiellement symbolique. Il n'y a pas d'aspect de la culture qui ne le soit pas. Même si on peut s'exprimer en parlant de la culture matérielle pour l'art de façonner, tailler de la roche, des objets ou autres, fabriquer des objets en bois, ces objets, dans leur forme, dans leur valeur, dans leur permanence, dans leur interaction, dans leur échange, le fait qu'ils fonctionnent tous les jours, deviennent des symboles. Même dans le monde, par exemple, je venais de citer le monde des Australopithèques, la production à la Chelée en Afrique, il y a 1,5 million d'années, de ces objets qu'on appelle les bifaces, qui ont des formes très régulières et qui vont rester sous ces formes pendant 1 million d'années. Il y a une interaction, il y a un agissement sur la représentation du monde. Tous ces symboles sont des explications du monde avant la science, avant la formalisation que l'on connaît aujourd'hui dans notre société, mais qui est très moderne.
Nous allons écouter la voix d'André Leroy-Gourhan qui va parler de la recherche sur les origines de nos ancêtres. C'est une archive INA du 22 mars 1970.
Ce qui caractérise les méthodes de la préhistoire, c'est sans doute avant tout l'imagination. Mais pas l'imagination qui fait inventer les réponses à des questions sommairement posées. L'imagination qui fait rechercher la manière de poser les questions aux matériaux les plus décourageants. L'exactitude de la recherche préhistorique est aussi exigeante que celle des sciences physico-chimiques. Et notre méthode scientifique est très proche de celle des physiciens, puisqu'elle consiste à mettre des matériaux strictement établis dans leur caractère à l'épreuve d'hypothèses rigoureusement incluses dans un processus de contrôle expérimental. Ce qui caractérise aussi la recherche préhistorique actuelle, mais n'est-ce pas vrai maintenant de toute science ? C'est de mettre le document sous les feux croisés de plusieurs disciplines. C'est plus sensible chez nous, peut-être, parce que nous avons conscience de ne pouvoir faire notre expérience qu'une fois. On ne peut pas recommencer une fouille. Et cela nous porte à déployer sur le moindre vestige tout ce que toutes les sciences peuvent nous offrir de contrôle dans la recherche passionnante des origines de nos ancêtres.
Alors le maître André Leroy-Gourhan vient de s'exprimer. Depuis, la recherche en préhistoire a beaucoup évolué techniquement, scientifiquement. La manière même d'appréhender la préhistoire, pour vous, préhistoriens, a beaucoup évolué en fonction de nos mentalités et de l'émotion que suscite en nous cette science que vous pratiquez, Jean-Michel Geneste. Mais quand il dit « on ne peut pas recommencer une fouille », est-ce encore vrai aujourd'hui ?
Oui, tout ce qu'a dit Leroy Gourhan dans ses belles paroles reste absolument exact. La part de l'imagination, l'interdisciplinarité, croiser tous les faits, toutes les données, si possible, avec d'autres que ceux de la seule discipline. C'est une discipline qui doit emprunter l'archéologie. En soi, l'archéologie, cette science soi-disant du passé, elle a peu de règles. Elle emprunte en permanence et elle emprunte autant que se développe le corpus et l'arsenal des disciplines aujourd'hui. Donc on est toujours obligé d'être extrêmement attentif, de faire une sorte de veille scientifique, d'avoir l'imagination en éveil, comme le disait Leroy Gourhan, pour trouver la méthode qui va permettre de caractériser tel élément physique ou autre, et en même temps de plus en plus de croiser avec des disciplines, d'étudier et de partager l'objet d'étude en réelle interdisciplinarité. Pas seulement la pluridisciplinarité qui éclaire un objet avec différents faisceaux, mais dès le départ, de poser la question à la lumière de plusieurs disciplines, intégrant à la fois peut-être la matérialité de l'objet, mais par exemple de regarder l'art pariétal, non pas comme une réalisation technique. Certes, il y a eu ici la capacité de vaincre la difficulté de la paroi à Lascaux en pulvérisant par aérographie du pigment pour qu'il rentre dans une paroi qui est totalement agressive, ou à Chauvet d'inventer l'estompe parce que la paroi était molle et liquide et que le pigment ne tenait pas dessus, vous voyez. Et en même temps d'essayer de restituer cette dimension profondément culturelle, émotive. Bref, ils avaient des préoccupations, c'est hommes, ces sociétés du passé, ils ont eu très tôt des préoccupations sur comment fonctionnait le monde qui était autour d'eux, quelle était la finalité de la vie dans cet espace. Ces questions sont d'ordre métaphysique, ils n'ont pas été à l'abri de cela, ils ont traité ces questions avec les moyens qu'ils avaient à leur époque. Comment aujourd'hui, en regardant des œuvres, non pas des œuvres matérielles, mais des œuvres de l'esprit comme le sont des parois peintes, peut-on accéder à cette dimension-là?
Alors, tout à l'heure, Leroy Gourhan disait qu'on ne recommençait jamais une fouille.
Oui.
Vous vous exprimez à plusieurs reprises dans ce livre vraiment passionnant sur les fouilles, sur les cultes des morts. Parce que quand vous faites des fouilles, vous allez trouver de temps en temps des morts. Mmh. Et vous dites, et vous employez cette expression qui m'a beaucoup bouleversée, vous dites « nous faisons un deuxième enterrement, nous prenons en charge » de nouveau le deuil de celles et ceux que nous trouvons, alors qu'il s'est passé 25 000 ans, 30 000 ans, 60 000 ans, et peut-être même plus.
Oui, c'est Boris Volantin, mon co-auteur et ami, qui insiste sur les périodes de l'archéologie récente, sur le fait, lorsqu'on exhume les morts et lorsqu'on travaille dessus, lorsqu'on trouve ou un cimetière pour une époque récente, ou une sépulture collective ou autre, on est extrêmement respectueux au point que, comme nous le disons souvent, même quand les morts ne sont pas là, on marche toujours en chaussettes sur les sols archéologiques que l'on dégage. Et après, on essaie de choyer les morts une seconde fois. Dans une grotte ornée comme la grotte de Cussac, découverte il y a une vingtaine d'années en Périgord, qui date de 25 000 ans, on a découvert des sépultures. C'était la première grotte dans laquelle on avait vraiment en même temps un lieu sépulcral. On a attendu plus de 10 ans avant d'en commencer l'étude scientifique. Et ils sont toujours au même endroit. C'est de cela dont il s'agit. Et en même temps, pour répondre à l'autre question que vous me posez, c'est-à-dire qu'on est totalement souvent préoccupé par le fait que ce qu'on va fouiller, on va le détruire et ça va nous échapper en fumée, comme cette image de Roma de Fellini où on voit s'effriter ce que l'on découvre. Les sites archéologiques, on ne peut les fouiller qu'une seule fois. Si on n'est pas suffisamment attentif à ce moment-là, quelque chose peut passer à travers les mailles pourtant serrées de notre esprit et de notre méthode analytique, et on peut le perdre. Et en même temps, on a aujourd'hui, à la surface de la planète, une érosion catastrophique des sites archéologiques, des sites d'art rupestre. Et là, c'est du passé inscrit dans la Terre qui disparaît, parce qu'on l'a pas encore ouvert, on n'a pas encore ouvert cette boîte-là, cette boîte-ci. Et la disparition de tous les sites archéologiques, c'est l'érosion de notre mémoire, d'une de nos mémoires.
Mais pourquoi cette disparition inéluctable des sites archéologiques? Parce que c'est plus particulièrement en Europe qu'on s'intéresse à notre propre passé très ancien.
Non, j'entends par là que les sites archéologiques sont répartis sur tous les endroits de la planète. On en consomme dans nos régions en développant des aménagements routiers, des parkings, etc. Toutes les infrastructures tout aussi nécessaires, mais on en consomme.
Mais je croyais qu'il y avait la sauvegarde du patrimoine dès qu'on trouvait la moindre trace de quelque chose qui pourrait...
Oui, en France, on a l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive, mais en Nouvelle-Guinée, mais en Australie, mais ailleurs, quand on consomme des centaines de milliers d'hectares de forêt, que l'on fait des barrages ou des mines, les sites archéologiques, quelquefois on peut les prendre en compte, mais il y en a énormément qui disparaissent.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Jean-Michel Jeunesse, Woody Guthrie.
This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went a-walking that ribbon of highway, and I saw above me that endless skyway, I saw below me that golden valley, this land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me, a voice was a-sounding, this land was made for you and me. There was a big high wall there that tried to stop me. A sign was painted, said private property, but on the backside it didn't say nothing, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling, a voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me.
La terre que vient de chanter Woody Guthrie, cette terre que vous fouillez en permanence sur toutes les latitudes, dans tous les continents, Jean-Michel Jeunesse, cette terre, vous la fouillez toujours avec beaucoup d'émotion, de sensibilité, de tact, de grâce et même d'art poétique. Je voudrais que vous nous parliez de Margaret Catherine, qui est une femme extraordinaire, qui a présidé à certaines de vos fouilles archéologiques que vous avez menées pendant des années en terre australienne.
Oui, c'est l'exemple même d'une harmonie trouvée entre l'esprit et une discipline que je porte, l'archéologie, avec un collègue, Bruno David, qui m'introduit d'abord en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis on en arrive à être invité à travailler sur le plateau de Ternarnem par un groupe territorial et tribal qui sont les Jawoin, et qui ont abandonné leur territoire depuis les années 50 et qui redécouvrent peu à peu des sites d'art rupestre. Et ils se demandent, dans ces sites d'art rupestre, quels qu'ils sont par rapport à nous. Et comme dit Margaret, je suis noir, tu es blanc, on est frères, mais moi j'ai pas de passé. Tu peux m'aider, puisque tu sais lire dans la pierre avec tes amis. Comment ? J'aimerais savoir ce qu'il y a dans le passé, et j'aimerais avoir moi aussi une histoire qui m'ancre dans le passé, et j'aimerais savoir comment vivaient vos ancêtres. Voilà comment on démarre, un jour on démarre dans ce site, et elle nous amène dans ce site qui est extraordinaire, qui est peint, qui est un grand chef-d'œuvre, dans l'art pariétal, sur un plateau de terre d'Arnhem totalement inaccessible. Il faut 1h30 d'hélicoptère, on ne peut pas y aller parce que le paysage est morcelé, c'est une plaque de quartzite dure, il y a des vallées profondes, donc on est posé là pendant quelques semaines. Et Margaret arrive, nous montre le site, on voit le site, et elle commence à chanter, à s'exprimer et à parler aux esprits de la roche en disant « Je viens avec mes amis, soyez généreux avec eux. Ils viennent travailler, sont des amis, ils vont nous apprendre quelque chose. » Et on rentre là, dans le début de la fouille, et on commence à fouiller. Les premiers charbons de bois qu'on trouve, effectivement, ce sont ceux de l'époque de Margaret Catherine, puisqu'elle est née là, elle y a vécu jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans, et elle nous autorise à fouiller. Je lui dis « Dans cet abri, il y a beaucoup de place, on peut fouiller à cet endroit, où vivais-tu ? » Je vivais là, avec mon père, mon oncle, dans cette partie de l'abri, et on a commencer à fouiller là. Et immédiatement, parce que c'est en Australie que c'est facile d'avoir beaucoup d'éléments de datation, avec une méthode extrêmement bien précise, très rapidement on atteint des périodes anciennes, et à un moment donné, on découvre une hache polie. Les haches polies, on en a en Europe, mais elles datent du néolithique. Là, elles dataient de 30 000 ans. Elle avait simplement 39 000 ans. Donc on faisait un bond incroyable dans le temps. Ça montre la diversité des cultures. Ça s'est pas du tout passé, l'évolution du monde technique en Australie comme ici, puisqu'on a commencé à tailler et puis après à polir les roches. Là, les roches, cette hache polie était ancienne. Et Margaret, on lui a montré cette hache que l'on avait mis dans un sachet précautionneusement. D'abord, elle a détruit tous nos éléments de respect pour cet objet, puisqu'elle a ouvert le sachet, elle a attrapé, nous on ne voulait pas mélanger son ADN, bon, bref, etc. On a perdu ce type d'information, mais là, elle a entendu ses ancêtres, et elle nous a parlé, et elle nous a dit à quoi avait servi cette hache. Simplement, elle était dans un état émotionnel qui lui faisait revenir dans son enfance des histoires qu'elle avait entendues, des mythes, etc. Et que cette hache servait à découper les kangourous, les partager entre les membres de son clan. Elle entendait son père, ses oncles et autres, les mâles humains de son groupe. Et c'est cela, ce type de partage. Parce qu'à partir de là, Margaret, qui m'avait déjà doté d'un nom de peau, et donc j'étais l'équivalent de son fils aîné, on est obligé de rentrer dans le dispositif social. On est porté par une autre culture et on fait une archéologie qui est englobée dans une autre culture, qui prend d'autres termes et d'autres émotions. Dans le partage aussi, et c'est la raison pour laquelle on en parle différemment.
L'intérêt pour la préhistoire est-il partagé par toutes les civilisations ?
En principe, oui, et beaucoup par les populations qui vivent encore très proches du mode de vie de chasseurs, cueilleurs, collecteurs, pêcheurs, qui sont très proches de leur environnement et des sites. Et là, ils ont un attrait. D'abord, ils ont un grand savoir, ils ont une grande sensibilité sur ces œuvres et ils aiment les partager. Mais malgré tout, je peux dire qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, s'il y a un grand intérêt qui augmente pour ces périodes anciennes, ce très lointain passé, pour la diversité. C'est pas toujours avec le même sens de l'altérité et du partage. Et quelquefois, assez souvent même, on se rend compte que ce n'est pas évident d'aller parler de préhistoire dans les populations aborigènes australiennes, par exemple.
Pourquoi ?
Je pense que les sociétés contemporaines ont toujours du mal à gérer leur pluriethnicité. C'est très très difficile et ça nécessite une altérité que les aléas de l'histoire récente rendent toujours délicate. On n'en parle pas de manière tout à fait égale quand on est en Afrique du Sud, en Australie ou en France ou en Espagne. C'est pas du tout pareil.
Pouvez-vous nous expliquer, Jean-Michel Jeunesse, ce qui vous est arrivé corporellement et psychiquement quand vous êtes entré pour la première fois dans la grotte de Lascaux, dont vous êtes devenu le conservateur?
C'est quelque chose de très particulier parce que, comme j'étais archéologue, et j'avais à la fois la partie lucide et scientifique de mon cerveau qui fonctionnait, et je réalisais à quel point la conservation était extraordinaire, l'environnement était exceptionnel et toute la richesse qu'il y avait d'informations qui étaient encore préservées, cette grotte n'étant pas érodée, n'étant pas altérée, n'étant à peine fanée à certains endroits, elle était si bien conservée. Et en même temps, en pénétrant le long des galeries, j'ai été envahi, subjugué et entouré par des œuvres qui avaient été placées à des endroits particuliers de l'environnement il y a plus de 20 000 ans pour précisément produire un effet. Après, dans le passé, j'ai eu l'occasion d'analyser, effectivement, les œuvres, si elles sont plafonnantes et qu'elles sont en rotonde au-dessus de votre tête dans la grotte de Lascaux, c'est pour produire, entre autres, un effet sur le visiteur. Elles ne sont pas à hauteur de regard, comme dans certaines grottes. Elles sont en haut. On marche dans cette grotte en regardant les œuvres. On est sous les œuvres, on est dominé par l'animal au point de se demander, est-ce bien un animal ou sont-ce simplement les esprits des hommes qui sont parés de l'animal à cet endroit-là. Et là, on commence à rentrer dans un processus d'interprétation que l'on poussera, que l'on épousera, ou au contraire, simplement qu'on évoquera comme une possibilité. Et lorsque, beaucoup d'années plus tard, je viens dans la même grotte et que j'essaie d'y introduire des anciens Nyarinin du Kimberley australien, ils vont avoir peur, et puis dès qu'ils vont avoir franchi la porte, ils vont me parler et regarder cette grotte comme si elle était la leur, en me racontant leurs histoires et leurs mythes dans cette même grotte. Donc ces œuvres fonctionnent bien, comme il a été prévu qu'elles fonctionnent. Il y a une scénographie initiale qui nous est peut-être encore difficile à concevoir. Lévi-Strauss disait, on accorde l'ancienneté au peuple de la préhistoire, on ne leur accorde pas nos capacités. On ne leur accorde jamais Einstein, Picasso et Platon.
Et on a tort, bien entendu. Je vous propose d'écouter Yves Coppens. Dois-je rappeler qu'Yves Coppens est paléontologue, professeur émérite au Collège de France, que vous avez travaillé, j'imagine, beaucoup avec lui, notamment sur Lascaux. Il va parler de vous et il va vous poser une question, peut-être un peu embarrassante, Jean-Michel Jeunesse.
Alors, je connais Jean-Michel Jeunesse depuis très très longtemps. Et je dirais d'abord, numéro un, hein, que Jean-Michel Jeunesse est un préhistorien, c'est-à-dire que c'est un scientifique, c'est un savant, et qu'il a été chercheur pendant de nombreuses années, il l'est toujours, on l'est toujours un petit peu quand on l'a été beaucoup. Il a été donc chercheur dans ces périodes très anciennes, que pour le grand public on appelle la pierre taillée, hein, c'est un peu grossier, mais dans la pierre taillée, elle n'est pas toujours grossière d'ailleurs. Et ça s'appelle le paléolithique pour nous, enfin voilà. Et je me rappelle en particulier, il y a très très longtemps, d'un petit colloque à Bordeaux, je pense, où il avait travaillé sur les distances que parcouraient les hommes préhistoriques pour aller chercher leur alimentation, leur nourriture, leurs matériaux, leurs pierres pour les tailler, etc. Et c'était autour de 30 à 40 kilomètres, ça je m'en souviens fort bien. Au-delà, c'était une opération, une petite excursion, c'était autre chose, quoi. Mais en gros, 30-40 kilomètres, c'était le cercle possible autour de l'habitat. Alors, par ailleurs, Jean-Michel Genest, il est devenu conservateur. Il est devenu conservateur de cette grotte exceptionnelle qu'on appelle Lascaux, que vous connaissez bien. Cette grotte exceptionnelle qui n'est pas facile. Les services de la DRAC à Bordeaux disaient « Lascaux rend fou ». Lascaux rend fou. Et ça a été un petit peu ça à un moment donné. Et Jean-Michel Genest a eu la conservation, la responsabilité de la grotte au moment où la grotte n'a pas été gentille. Il y a eu des problèmes de microbiologie, d'organismes à l'intérieur de la grotte qui n'ont pas fait de dommages, heureusement, mais qui ont fait quelques troubles pendant quelques temps. Et il a enduré ça avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sagesse, ce qui n'était pas tout à fait facile à faire. Et ensuite, il a été administrateur, peut-être en même temps d'ailleurs, mais en tout cas, il a été administrateur du grand centre de préhistoire de Périgueux, avec beaucoup de succès, hein. Et c'est pas simple de gérer un centre aussi important. Donc disons que Michel Genest, c'est à la fois un savant, un conservateur et un administrateur, voilà. Alors une question à Jean-Michel, qu'est-ce que je dirais à Jean-Michel? Qu'est-ce qu'il pense d'abord de l'état de Lascaux en ce moment, ce que je sais un petit peu, mais moins, parce que j'ai quitté mes fonctions il y a 2 ans. Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'il pense aussi de la copie Lascaux 4? Parce que c'est à la fois superbe, les facsimilés sont merveilleux, on peut guère faire mieux. Et en même temps, forcément, pour nous qui connaissons la vraie grotte, il n'y a pas tout à fait la même émotion. Et j'aimerais bien donc avoir son opinion. Voilà, bonne émission.
Alors, la question est très importante, Jean-Michel Genest.
Il y a 2 questions.
Oui, il y en a 2. Il y en a peut-être même 3, d'ailleurs. D'abord, comment va Lascaux?
Je crois pour participer toujours au conseil scientifique de la grotte de Lascaux avec Muriel Moria, qui est la conservatrice, que la grotte est dans une situation stable après une décision très très lourde de la plonger quasiment dans l'obscurité et de ne plus y rentrer du tout, même pour on y fait de la surveillance à distance puisque toute la grotte est parfaitement équipée, elle est particulièrement surveillée, mais il n'y a plus de problème depuis cette année 2000-2001, où on a eu la dernière crise bioclimatique. Donc, actuellement, la situation est bien et on n'a rien perdu de la grotte. Elle est, je crois pouvoir le dire, dans un état stable. Hein, c'est les derniers termes que nous avons utilisés.
En tout cas, Yves Coppens, il en parle comme si c'était un organisme vivant. Hein.
Les grottes sont des organismes vivants. C'est pour ça que lorsqu'on découvre des grottes, il faut faire attention à ne pas les aménager pour le public et les traiter et les transformer physiquement. Comme si installer du béton, mettre de l'éclairage, etc. Ils sont vivants, ces organismes. Alors, ils ne sont pas vivants au centre de Margaret Catherine. Ils n'ont pas un esprit, mais ils ont une vie biologique. Ils échangent, ils sont en interaction avec le reste. En les détruisant, leur imposant un régime climatique différent, on détruit les parois, le biofilm qui est la surface, et c'est de là que vient le problème. La deuxième question que posait Yves était plutôt relative
à
Lascaux 4 et aux facsimilés. Dans la mesure où les grottes ornées comme Lascaux, la première a été fermée au public, et c'était par André Malraux en 1963, très tôt est apparue cette idée de faire des facsimilés. Le premier facsimilé de Lascaux, Lascaux 2, c'était une architecture en métal, en béton, sur lequel on avait posé de la peinture. Aujourd'hui, on dispose d'outils pour le facsimilé de la grotte Chauvet ou de Lascaux qui se sont suivis et qui ont été ouverts ces dernières années. On dispose d'un outillage et d'un équipement numérique qui fait que l'on peut faire en matériaux de synthèse la reproduction de la grotte, obtenir une très grande précision des œuvres, concevoir une architecture avec une climatisation qui nous rapproche du climat de la grotte et donc amener le visiteur dans des espaces qui sont au plus près de ce qu'on peut imaginer de l'original. Ayant présidé au comité de réalisation, ayant surveillé, supervisé, et mon avis ayant été recueilli pour la qualité des œuvres et des panneaux peints, c'est vraiment des panneaux qui sont proches de l'original. au point que on ne peut pas se tromper. On les présente dans des espaces dans lesquels, par contre, on va attirer des centaines de visiteurs, des dizaines de visiteurs. Mais ça, c'est le système de gestion qui nous contraint à cela.
Mais c'est, vraiment, fait, c'est très très bien fait, d'ailleurs, Copin vient de le dire. Mais c'est fait. Quand même, vous l'avouerez, vous qui avez eu la chance de vivre dans Lascaux, vous qui avez eu la chance de vivre dans la grotte Chauvet, etc., et dans d'autres grottes du monde entier, c'est quand même du comme-si. Et moi, je vais vous citer Jean-Michel Jeunesse, parce que dans le chapitre que vous consacrez à Lascaux, dans cet ouvrage qui vient de paraître, vous dites que vous avez, vis-à-vis de Lascaux, finalement une vision très personnelle, qui va à l'encontre, peut-être, de certains autres scientifiques. Vous vous demandez si Lascaux ne pouvait pas être vu tout autrement qu'on la visite aujourd'hui. Et ça, cette oui. émotion que vous avez ressentie, cette compréhension par rapport aux origines de notre humanité, vous n'avez pu les percevoir et les ressentir que parce que vous étiez dans la vraie grotte.
Bien entendu, et j'ai développé, je développe toujours, une autre manière qui me paraît plus susceptible d'enrichir le visiteur et tout un chacun et de la faire partager, c'est les dispositifs numériques immersifs. Et là, on prend le visiteur, on l'amène seul dans la grotte et il fait sa propre expérience. Et aujourd'hui, je suis de ceux qui considèrent que la période des facsimilés réalistes est passée. Elle est dévolue. Nous avons aujourd'hui d'autres manières.
On s'immerge dans le 3D.
On s'immerge dans le 3D et un véritable 3D qui vous envahit. Et c'est cela, les nouvelles technologies de reproduction et surtout de transport des sujets dans la grotte, dans
un
univers.
Vous êtes
peintre,
non ?
Non.
Peintre du dimanche ?
Non, je suis un naturaliste qui sait manier des couleurs et de pinceaux. Mais
eh
ça,
bien,
ça fait
voilà,
partie.
Donc, quand vous n'êtes pas dans la grotte, vous peignez des paysages.
Des paysages ou des objets ou ce que j'ai autour de moi pour en capter ce qui est à ce moment-là dans l'espace, juste cet instantané d'une couleur, d'une ambiance, etc. C'est vrai, j'aime avoir des pinceaux, des crayons et je gribouille toujours.
Et vous, le grand savant, quand vous faites des films pédagogiques pour nous immerger à l'intérieur de ces découvertes de la préhistoire, vous faites appel à des artistes, parce que seuls les artistes peuvent peut-être comprendre les racines de votre métier. Je terminerai par une
Absolument.
Question. Est-ce que vous accepteriez que la définition de votre métier, ça soit la capture de l'invisible ?
Oui, et avec plaisir.
Donc il vous reste du travail, là ?
Je crois, oui. Oui. J'ai juste commencé un peu. J'ai vraiment juste commencé. Et vous voyez, je commence à être vieil archéologue.
Ben non, vous avez l'air très jeune. C'est peut-être parce que vous vivez dans les grottes. Mais en tout cas, pourquoi en finir avec la préhistoire ? Parce qu'on ne sait toujours pas quand elle commence et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'elle s'arrête.
Et
que chaque année, il y a des découvertes nouvelles qui nous permettent de modifier notre appréhension.
C'est une continuité, ce n'est pas une rupture. Et c'était ça le clin d'œil. Il n'y a pas de préhistoire ancienne, il y a des paléolithiques, etc. Mais il n'y en a pas qui ont appartenu plus à une préhistoire qu'une autre. On est vraiment dans un continuum aujourd'hui. Je le sens comme une distinction, une rupture, une barrière. Il n'y a pas de barrière. Si on les regardait et si on approchait ces temps-là avec les mêmes méthodologies que la sociologie contemporaine, ce qui n'est pas gagné, effectivement, on se rapprocherait et on rapprocherait ce passé-là d'un passé qui est proche, qui est celui d'hier.
Et il y a beaucoup encore de choses à découvrir, manifestement, notamment sur toute la période des chasseurs-cueilleurs.
Énormément, énormément. Mais c'est elle qui est aussi l'objet de la plus grande érosion, parce que aussi les chasseurs-cueilleurs, aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Il y a 40 ans, on pouvait encore en étudier. Il y a un siècle, l'ethnologie se penchait sur leurs connaissances et leur mode de vie. Aujourd'hui, non. Il nous reste plus que ces chasseurs-collecteurs fossiles. Et puis surtout, les descendants de ces sociétés-là, qui sont en train, elles, de se transformer. C'est pour ça qu'il n'y a plus de préhistoire. On a voulu, il y a quelques années, lire en présentant des aborigènes d'Australie du Nord, en disant « voici les derniers descendants de la préhistoire ». C'est contre cela qu'on a fini avec cette préhistoire-là.
Ça n'a pas été facile de faire en sorte que vous puissiez être ce soir en direct dans notre studio parce que vous voyagez tout le temps. Dans quelle grotte allez-vous vous enfouir prochainement, la prochaine grotte?
Là, je reviens, j'espère avoir l'occasion de revenir dans la grotte de Shulgantash, au pied des monts de l'Oural, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à des grottes qui sont ici en Europe, mais qui est là-bas dans l'Oural et qui date de 25 000 ans.
Alors, bon voyage, cher professeur.
Merci beaucoup.
Et merci infiniment pour ce magnifique ouvrage qui vient de paraître aux éditions Flammarion, qui est co-signé avec Boris Valentin et vous, Jean-Michel Genest, et qui s'intitule « Si loin, si près » pour en finir avec la préhistoire. Et vous savez qu'ici, on se quitte en musique et je suis sûre que vous allez aimer cette chanson d'Arnaud.
On se promet comme tous les soirs, on se dit rien, on va de bar en bar, ça rime à rien, comme tous les soirs. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir. Spéliale allume la digue. Comme tous les soirs. Aux couleurs nostalgie. Aux couleurs désespoir. Par les marées, le ciel et nos regards. Je suis seul avec toi. Au stand, bonsoir.
C'est avec cet au stand bonsoir de Arnaud que nous allons nous quitter, non sans avoir remercié Philippe Duclos qui ce soir était à la technique. Merci à Jean-Baptiste Audibert, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard, Pierre Dindy, à Benjamin Riquet qui ce soir a réalisé cette émission. Et après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous comme chaque soir avec Mishka Assayas qui est tout en douceur et en rondeur et qui va nous faire écouter de nouveau du rock romantique.